Marceau le matin, il est précisément 7h43. Très belle journée à la météo. C'est 30 degrés. Annoncé avec alternance de soleil et nuages. 30 degrés vendredi, généralement ensoleillé. Hey, ça, là, le soleil, là. Je sais pas pour vous autres, mais ça me fait toujours penser à... C'est-tu bon à se déboucher une petite bière au soleil?
Eh là, Jeff, il est 7h43
mais ça
le
fait
matin.
Deux fois qu'il nous parle de bière.
Ouais, ouais, à 6h le matin, il nous parlait de bière d'après moi.
Ben ça, c'est parce que j'ai décidé de ne pas prendre d'alcool du lundi au jeudi. Ça
le
fait depuis
ça
le
fait
mois
pas
de janvier. Puis je t'offre la run, pas dans mes vacances, on s'entend, là, mais sinon je t'offre la run l'été. Mais maudit que je me rends compte que c'est tough.
Mais clairement, en ce moment, c'est difficile, tu l'as dans la tête. Ouais, là.
Faut pas qu'il fasse comme Marceau, là, qui avait arrêté le café. Là,
24 heures.
Puis deux jours après, il est arrivé en studio avec son café.
Il nous parlait de sa révolution personnelle. Ouais. Pas sa résolution, sa révolution personnelle. Puis on dirait que comment il nous en parlait, ça faisait au moins un mois là, qu'il avait arrêté le café. Ouais. Pour qu'on se rende compte, ça faisait 24 heures, deux jours plus tard, il cassait ça.
Hey, hier, là... Je reviens de m'entraîner. On a sué une shot à l'entraînement. Là, j'arrive, je prends ma douche. Val, super gentil avec ses gars, m'ont attendu pour souper. Une bonne salade. Une recette de boulettes à Val qu'elle avait jamais faite, qui, ma foi, était succulente. Je pense que j'ai repris trois fois de la recette tellement que c'était bon. Merci, chérie, de cuisiner aussi bien. Et là, j'accompagnais ça d'un verre d'eau. Je me disais, une IPA avec ça. Ça serait-tu extraordinaire? Mais j'ai résisté à la tentation. J'étais fier de moi, mais oh my God, que ça m'en demande! Ben, dites-vous que du 13 au 16 août, le Festival Bière de Québec vous attend au quai de l'espace 400e. Bon, le 13 août, c'est un jeudi, j'irai pas. Mais le 14 ou le 15, c'est un vendredi ou un samedi, je vais pouvoir me le permettre. C'est pour 4 jours de découverte de spectacles et de plaisir en famille ou entre amis. Au menu, bière, cocktail, spiritueux, cidre, vin, alternatives sans alcool aussi et food truck. Le Festibière de Québec, c'est 3 soirs de spectacles, entre autres avec La Grand-Messe, Jay Scott et Gab Bouchard. On frappait fort en tabarouette le Festibière cette année. Les représentations sont gratuites. Vous voulez remporter verre et dégustation? Vous tente-tu? Êtes-vous comme moi? Avez-vous toujours le coude un peu plus léger l'été? Aimez-vous ça, la bière? On m'écrit par texto que j'ai soif. Oh oui.
Ça se sent.
Eh bien, les amis, ça tombe bien. Par texto, 418-971-1021. Vous faites tout simplement texter « Jeff résiste » avec votre nom et votre numéro de téléphone. Et parmi ceux qui vont avoir texté, ben ça tombe bien, on fait un gagnant. 2 verres et 4 dégustations. On vous récompense, les amis, à Boulevard 102.1. Donc, vous textez « Jeff résiste » parce qu'à soir, il faut que je résiste encore avec ce beau temps-là. Quoi qu'à soir, je suis occupé jusqu'à peu près 8h30 puis on se couche de bonne heure. Fait que je devrais être capable de résister. Alors, vous textez « Jeff résiste ». Votre nom, votre numéro de téléphone fait gagner 2 verres et 4 dégustations. C'est après les vacances qu'on se rend compte que des fois, on a un problème d'alcool, finalement.
T'es rendu là, Jeff, là, dans ton processus.
Mais bravo d'être dans l'ouverture, la transparence sur ton problème.
Oui, hein? Je trouve que je fais des pas là-bas.
Ouais, demain, tu te gâteras, là, Jeff. Là, mais aujourd'hui, on reste sur la job. On a un travail à faire. On oublie la bière, puis on
avance.
On passe aux affaires importantes.
Surtout à 7h48.
Exactement. Quelques petites manchettes avant de parler, Étienne-Alexandre Beauregard.
L'été n'est pas terminé. L'Écoparc vous accueille tous les jours jusqu'au 23 août, puis les 29 et 30 août, ainsi que le 6 septembre. Et le 16 août, profitez de la journée Desjardins, Parc en folie.
Veux-tu bien me dire pourquoi c'est pas le thème des manchettes qui est parti?
C'est pas grave, mais on va faire des manchettes.
C'est parce qu'on a parlé de bière.
Ouais, c'est ça. Quand on parle de bière, là, tout part en vrille. Là,
je vais te le bruiter.
Exactement.
Merci, Pascal.
Vas-y, mon Alex.
Mais c'est Mark Carney qui revient dans les nouvelles ce matin. Le premier ministre canadien s'est exprimé sur les négociations qui ont repris avec les États-Unis. Et il n'a pas caché que le ton est assez dur là, dans les négos avec nos voisins du Sud. Mais il a parlé de discussions constructives. Pour l'instant, Mark Carney compte garder son approche de négociation avec le gouvernement Trump. Et il n'a pas vraiment montré d'ouverture là, à hausser le ton ou même répliquer avec des tarifs là, par rapport à ceux qui ont ont été annoncées par le président américain. Dominique Leblanc est d'ailleurs à Washington présentement pour les négociations, mais Carney affirme qu'il est très impliqué dans les pourparlers. Au Québec, la première ministre Christine Fréchette a annoncé de nouvelles aide financière. On parle de 268 millions à des entreprises et ça, ça fait suite au dernier conseil des ministres qui avait lieu le 15 juillet dernier. Le plus important bénéficiaire, ben, c'est la multinationale Première Tech du côté de Rivière-du-Loup qui ont le droit à un investissement d'environ 217 millions de dollars. Et le prêt de Québec viendrait soutenir 650 millions d'investissements alignés avec le plan stratégique de Première Tech. Là, c'est ce qu'on dit du côté de l'entreprise. On a aussi Ubisoft qui a eu une subvention de 19 millions de dollars pour sa division québécoise et un autre 6 millions pour Ubisoft Nova. Pour justifier ces subventions, Québec évoque que Ubisoft a un projet qui va créer des emplois ici. Donc, c'est une des raisons qu'on allègue. On a également la multinationale étrangère, la suédoise Volvo, qui a obtenu un prêt de 13 millions de dollars pour sa filiale Prévost, là, qui construit des autocars à Sainte-Claire en Chaudière-Appalaches. Donc, la CAQ semble continuer avec ses investissements. Et ça fait peut-être écho aux résultats de sondage qu'on a ce matin du côté de Palace, Québec 125, l'actualité. Paul Saint-Pierre Plamondon reste premier dans les intentions de vote à 31%. C'est une hausse de 2%. Le PLQ aussi continue de monter, 2% de plus à 27% à l'échelle du Québec. Mais la CAQ, ça baisse. On est rendu à 19%. Et même chez les francophones, la baisse est encore plus marquée. Une baisse de 6%, on est à 19%, tandis que le PQ domine chez les francophones à 34%.
Pour en parler avec nous, il est au bout du fil. Étienne-Alexandre Beauregard, chroniqueur politique ici à Boulevard 101. Également ex-rédacteur de discours du premier ministre François Legault. Étienne-Alexandre, comment vas-tu?
Ça va très bien, vous-même.
Ça va super bien. Étienne-Alexandre, les boîtes commencent à se faire parce que tu t'en viens t'installer dans la belle région de la Capitale-Nationale.
J'aimerais dire, mais malheureusement,
ah non, c'est
déménage à Montréal.
C'est vrai, tu t'en vas à Montréal. Et on a eu un débat Québec-Montréal tantôt. Moi et Alex Laramé. T'en penses quoi, toi?
Moi, je suis vendu d'avance. C'est un gars de Québec.
Ben, c'est ça.
Mais quand même.
T'en penses quoi, toi? Montréal, à chaque fois qu'il faut qu'il bâtisse une infrastructure, comme exemple, mettre un toit sur le stade IGA de tennis, faut juste que ça soit de l'argent public. Mais à Québec, quand on veut se bâtir une infrastructure, on n'a pas le droit de piger dans l'argent public. C'est épouvantable.
Ah, parle-moi-en pas. Mais tu sais, c'est comme quand on parle de construire des infrastructures sportives versus des infrastructures artistiques. C'est-à-dire que ceux qui tiennent le micro, ils ont des préférences. Ils vivent à une place en particulier. Puis ce qu'ils vont écrire ou dire souvent va refléter ces préférences-là. Fait que ça se comprend, mais ça veut pas dire qu'on est obligé d'aimer ça.
En effet. Étienne-Alexandre, as-tu été comme moi surpris de ce sondage-là, Palace, qui est sorti avec une chute de la Coalition Avenir Québec dans le vote francophone? Moi, ici à Québec, je vais t'avouer, on entendait plus un élan positif autour de la CAQ, puis un peu plus négatif autour du Parti libéral du Québec. Donc, ça m'a étonné. Toi, là, qui es à l'extérieur de la grande région de Québec, entendais-tu le même son de cloche que ce que le sondage démontre?
Bien, c'est sûr que je pense que, pour moi, en tout cas, la nouvelle de l'été, ou qu'est-ce qu'on a vu vraiment, ça a été pas mal tranquille. Beaucoup de politiciens qui ont pris le temps de faire des forces hein, avant la campagne, mais ça a été un très mauvais été pour Charles Milliard. Puis à preuve, les libéraux sont quand même plus aussi proches du Parti québécois qu'à l'époque où il était pratiquement nez à nez, là, avec les chiffres en ce moment, surtout considérant le vote francophone. Le Parti québécois pourrait avoir pratiquement une majorité avec 31%, ce qui d'ailleurs serait pratiquement jamais vu dans l'histoire du Québec. Pour ce qui est de la CAQ, en tout cas, le sondage Palace montre juste une chute de 1 point à l'échelle du Québec. Moi, je pense pas que c'est si improbable que ça qu'ils ont fait un peu du surplace pendant l'été. T'sais, je veux dire, certaines annonces qui ont été annoncées, il y en a certaines qui sont tombées à plat. Là, on se souvient de l'histoire de taxer des bars tendres pour 50 $ pour une famille de 4 dans une année. Là, ouais. C'était un peu... en tout cas, c'était dur à vendre, mettons. Puis c'est ça, mais dans la région de Québec, je me rappelle de ce que tu dis. On avait vu à un moment donné, hey, est-ce que la CAQ serait rendue première dans la région de Québec? Puis tout. Puis j'avoue que moi, je regardais ça, puis je me disais, ah ouais, considérant ce qui se passe en ce moment, je serais comme un peu surpris. Puis là, on dirait que ça revient un peu à la normale. Fait que je pense que ça fluctue encore pas mal. Là.
Non, en effet, ça va être une belle lutte à trois, selon moi, à l'échelle nationale. Une belle lutte à trois ici dans la région de Québec entre la CAQ, le Parti conservateur du Québec et également là, le PQ. Parlant du PQ, les intentions de vote reste quand même assez stable. Hein? 31%, 34% au niveau des francophones. Moi, je regarde ça aller, je me dis, Paul Saint-Pierre Plamondon a vraiment réussi à stabiliser. C'est bien le fun, là. On va avoir une belle campagne électorale, mais à moins d'une catastrophe, ça va être lui notre prochain premier ministre.
Ben écoute, c'est sûr que si tu avais à mettre de l'argent aujourd'hui sur quelque chose comme Polymarket, quelque chose comme ça, ça serait le pari intelligent, là. Après, la vraie question, c'est avec une minorité ou une majorité. Puis j'en parlais juste avant. Si M. Blamondon était capable d'avoir une majorité avec seulement 31% du vote, ça serait pratiquement du jamais vu dans notre histoire. Là. On le sait, bon, avant, quand il y avait juste deux partis, c'est sûr que c'était assez difficile de gagner une majorité avec moins de 40%, sinon tu n'étais juste pas au gouvernement. La CAQ a gagné en 2018 avec quelque part autour de 37. Là, la dernière fois, ils ont dépassé 40 parce qu'ils ont vraiment balayé le Québec. Mais là, ça en dit long, en fait, sur un système très, très éclaté avec beaucoup de partis. Puis je pense que oui, comme tu dis, depuis déjà deux ans, là, qu'il est en tête des sondages au moins, il est capable de fidéliser quand même une base. Il y a un bon socle autour de 30%, mais on se rappelle qu'il a déjà été plus haut. Là. Oui. On l'a déjà vu autour de 35-38.
Ah, il y a même, c'est ça, il était près de 40, là.
Ben voilà, puis ça, c'est pas mal plus confortable si tu vas avoir un gouvernement majoritaire, parce que là, à 31, ça devient difficile, puis après, ça questionne aussi ta légitimité. T'sais, s'il veut aller dans quelque chose comme un référendum sur la souveraineté, ou même s'il veut juste faire des réformes qui sont un peu audacieuses puis qui brassent du monde, mais si t'es pratiquement le premier ministre le plus mal élu de l'histoire du Québec avec ta majorité, ben là, c'est difficile de te réclamer un peu de l'appui des Québécois. Fait que je pense que son défi pour l'élection, ça va vraiment être capable d'aller chercher d'autres électeurs, justement, pour avoir un chiffre qui, idéalement, dépasserait 35, s'approcherait de 40, puis à ce moment-là, t'as vraiment une légitimité béton pour faire les réformes que tu veux.
Mais selon toi, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a utilisé la bonne stratégie cet été, parce qu'on ne l'a pas vu, là, et est sorti hier dans les réseaux sociaux pour dire qu'il allait recommencer là, des tournées médiatiques à partir d'aujourd'hui. Mais là, on voit que de chez Palace, il augmente de 2%. Selon toi, as-tu fait la bonne stratégie en restant peut-être plus à l'écart durant l'été?
Bien, manifestement, ça ne lui a pas nuit. Ça ne lui a pas nuit. Puis considérant que, bon, une campagne électorale, c'est un exercice qui est difficile, qui nécessite beaucoup d'énergie. Bon, je me suis jamais présenté, j'ai encore moins été chef de parti, mais pour avoir fait une campagne à la dernière fois, tu sais, quand tu fais 30-40 jours, à la fin, t'es vraiment fatigué. Et rendu là, s'il a pris du temps justement pour lui, c'est tant mieux. Je pense que il n'est pas seul à avoir fait ça. Par exemple, M. Duhaime aussi, il a pris des vacances, on a moins entendu parler cet été. Puis les deux, sont dans la même situation, ils sont connus, puis ils ont déjà une base. Il n'y a personne qui a oublié c'est qui Paul Saint-Pierre Plamondon pendant l'été. En tout cas, c'est invraisemblable. Tandis que Mme Fréchette, M. Milliard, qui sont peut-être un petit peu moins connus, eux ont été un peu plus présents. En même temps, ça peut se retourner contre ceux qui font ça, parce qu'on l'a vu, M. Milliard, il n'y a eu pratiquement que des mauvaises nouvelles avec ses candidats qui s'en vont, avec ses problèmes sur la question de la langue, avec son caucus anglophone. T'es rendu là, pour vrai, il aurait été mieux. Il aurait été mieux de prendre des vacances, lui aussi.
En effet, il a tenté le tout pour le tout, justement, pour essayer de prendre la sphère médiatique pendant que les autres n'étaient pas là, mais ça a été pour des mauvaises raisons. Éric Duhaime, premier dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches, 31% avec le PCQ. Pour toi, c'est quoi une victoire du PCQ à la prochaine élection? Parce qu'on sait qu'ils ne prendront pas le pouvoir. Mais tu sais, puis moi, je suis convaincu qu'ils font leur entrée à l'Assemblée nationale. C'est 6, c'est 7, c'est 10, c'est 5 députés. Comment tu vois ça?
Ben, M. Duhaime lui-même, il a mis la barre quand même relativement haute en disant, regardez, moi, ce que je vise, c'est 12. Je veux avoir un groupe parlementaire reconnu. Je veux qu'on soit capable d'avoir vraiment une présence qui est institutionnelle à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une bonne chose à viser pour lui. Puis je pense que, tu sais, il y a personne qui va être surpris qu'il dise ça. Comme tu dis, il y a personne qui s'attend réalistement à ce que le Parti conservateur du Québec passe de 0 à 65 sièges.
Non.
C'est une trop grosse bouchée pour un parti, puis tout le monde est comme conscient de ça. Mais c'est sûr que s'il est capable d'aller chercher beaucoup de sièges dans la grande région de Québec, là, c'est sûr que ça doit lui faire plaisir, le sondage de ce matin, de voir qu'il est premier dans la région. Parce que, bon, la dernière fois, on s'en souvient, en 2022, il y avait eu quand même un appui qui était assez substantiel dans la région, si je me trompe pas, plus d'un quart du vote. Mais on avait eu un effet de barrage beaucoup parce que, bon, dans le contexte de la pandémie, etc., beaucoup de gens qui ne voulaient pas que le Parti conservateur rentre à l'Assemblée nationale, puis dans la région de Québec notamment, beaucoup de votes libéraux, péquistes, etc., qui se sont reportés sur la CAQ pour faire barrage. Fait que là, si on a un portrait qui est assez éclaté puis que le PCQ est premier, bien là, ça leur permet justement, avec notre système de vote, hein, on sait, il faut juste être celui qui en a le plus pour passer dans un comté, bien là, ça lui permet un peu d'éviter ça, d'être capable d'enfin avoir des circonscriptions.
Ouais, puis je regarde des circonscriptions clés pour lui, comme par exemple, présentement, je suis sur Québec 125, Chauveau, La Pelleterie, tu sais, avec justement les nouvelles données, il a repris cette avance-là là, d'un 7-8% dans ces régions-là. Bellechasse, ça va très bien. bien pour lui. Il est à 41%. La CAQ est à 22%. Donc, on voit déjà là, que d'après moi, il y a certains châteaux forts qui sont en train de se construire pour lui. Puis ça va être bien tant mieux là, que le Parti conservateur rentre à l'Assemblée nationale.
Oui, absolument. Je pense que d'avoir cette voix-là de plus au Québec, ça va permettre à des idées qui existent dans la population, qu'on discute déjà, d'avoir une place au Parlement, de participer au processus législatif, de poser des questions, tout ça. Puis on est rendu avec un portrait au Québec qui est très éclaté en 5 partis qui vont être représentés. Si la tendance se maintient, je pense pas qu'on a vu ça souvent, mais c'est sûr que ça va être intéressant sur le plan des idées.
Ah, vraiment, vraiment, vraiment. On a vu ça, nous, ici, dans la ville de Québec, avec 4 partis qui étaient représentés à l'Hôtel de Ville. Ça créait vraiment une synergie politique très intéressante, puis un débat d'idées très sain. Alors, j'ai bien hâte de voir là, ce que ça va donner après la campagne électorale. Christine Fréchette qui a octroyé 268 millions en cadeau à 5 entreprises à son dernier conseil des ministres. Paul Saint-Pierre Plamondon qui sort pour dire « Hey, moi, je suis premier ministre. » Il n'y en aura plus d'annonces comme ça en plein été de campagne électorale. Tu te situes où, toi? Moi, honnêtement, j'ai été malaisé par cette série d'annonces faites en pleine période estivale par un gouvernement qui en avait terminé de 2 mandats, donc de 8 ans.
Oui, mais moi, je pense qu'il y a 2 affaires là-dedans. Parce que là, c'est sûr, les subventions qu'on a vues arriver dans les médias ce matin, c'est des choses qui ont été votées au dernier Conseil des ministres. Fait que ça, oui, c'est un peu du nouveau. Mais quand on regarde l'ensemble des annonces, puis bon, il n'y a pas que M. Plamondon qui en a parlé, M. Duhaime aussi, je pense qu'il avait compilé quelque chose comme une 60aine d'annonces. Il disait pour plus de 7 milliards. Mais la chose qu'il faut quand même relativiser là-dedans, c'est qu'il y a des choses là-dedans qui sont pas du nouvel argent. Et moi, je me souviens, justement, quand je travaillais au gouvernement, c'est quelque chose qu'on disait souvent. Quand on donne de l'argent pour un projet, ben j'espère qu'on peut récolter le crédit puis en parler. Puis à ce moment-là, s'il y a une partie de ces sommes-là, en fait, la majeure partie là, du 7 milliards qui a été discuté cet été, qui venait du budget, ben rendu là, moi, je vais pas jeter la pierre au gouvernement qui veut récolter le crédit pour de l'argent qui a déjà voté dans le cadre du budget. Fait qu'il faut pas penser que, par exemple, le déficit a doublé parce qu'on a annoncé ça. Des fois, la conférence de presse va avoir lieu après que l'argent soit décaissé ou qu'il soit inscrit au budget. Quand on regarde vraiment les nouvelles dépenses de Mme Fréchette, ben ça, c'est des choses qu'elle avait promis dans sa course à la chefferie. Par exemple, sa mesure sur l'accès à la propriété. Bon, on parlait des bartendes et des collations de taxés tout à l'heure. C'est un peu plus ça, si on regarde là, vraiment qu'est-ce qui va avoir changé par rapport au budget, qu'il faudrait regarder. Bon, après, sur la question, est-ce qu'on devrait pouvoir faire des annonces comme ça en période préélectorale, t'sais? Moi, si c'est de l'argent qui a déjà été décaissé, je vois pas pourquoi un gouvernement qui a déjà fait voter un budget n'aurait pas le droit de parler des investissements qu'il a déjà fait.
Bon point.
C'est un peu abusé. Cela dit, je comprends pourquoi il y en a qui sont un peu mal à l'aise avec ça. Je me souviens, en 2018, là, ça fait un petit peu longtemps, mais le Parti libéral a fait la même chose. Tout l'été, il a fait des annonces. Puis moi, là où j'avoue qu'on peut avoir un malaise, c'est quand on fait juste sortir des intentions comme ça en profitant de la position du gouvernement sans que l'argent soit vraiment encaissé de telle sorte que si un autre gouvernement arrive, ben il n'y a rien de ça. Là, c'est comme t'es un peu entre les deux, puis c'est comme si tu fais un peu ta campagne électorale avec l'argent public. Puis on devine aussi ce que le message que ça envoie, là, ça dit votez pour nous autres si vous voulez le montant qu'on fait miroiter, clin d'œil.
Ouais, en effet.
Quand on est dans cette zone-là, c'est un peu plus...
Dans certains comtés clés aussi, je pense, par exemple, là, à l'annonce pour les hôpitaux, là, c'était quoi? C'était à Drummondville, là, si je me souviens bien. Là. Mm. Ça fait 7 ans qu'on attend, puis là, soudainement, on a l'argent.
Ah oui, c'est ça. Fait on a quand même le droit d'être cynique malgré ça. Là.
Mais c'est-tu de là où ça vient la baisse pour la CAQ dans les derniers jours, au dernier sondage?
Je pense pas. Parce que bon... Quoi qu'on en dise, si on est un peu plus fiscalement conservateur puis qu'on aimerait que le déficit soit moins gros, en général, quand tu donnes de l'argent au monde, ils tendent à voter plus pour toi et non moins. Fait que je sais pas si c'est vraiment ça. Peut-être que c'est juste c'est le taux de satisfaction, à mon sens. Hein? Parce qu'on dit souvent en politique que le taux de satisfaction, c'est un peu ton plafond dans les intentions de vote quand tu es au gouvernement. Puis là, le sondage Palace qui est sorti hier, on voit en fait qu'ils mettent la coalition de Québec à 19% et la satisfaction à 18%. Fait qu'en fait, moi, j'aurais été très, très, très surpris si on me disait que Mme Fréchette était à 35% dans les intentions de vote, mais qu'il y a juste 18% de satisfaction. Probablement qu'il y a de l'usure du pouvoir là-dedans. Il y a du fait que les gens, bon... Il regarde ça, il dit « Ah, est-ce qu'on veut du changement? » Je pense que dans les circonstances, c'est pas vraiment anormal.
Étienne-Alexandre Beauregard, c'est toujours un plaisir de te parler. Tu es un excellent chroniqueur politique pour nous et au plaisir de se reparler prochainement.
Ben oui, merci, à bientôt.
Salut, Étienne-Alexandre Beauregard, ex-rédacteur des discours de François Legault, un jeune homme de 25 ans, super allumé sur la politique. C'est toujours intéressant de l'entendre parce que Tu sais, je fais juste regarder cette semaine, on a eu Christine Saint-Pierre, 74 ans, ex-ministre de la Condition féminine, qui nous a parlé, puis on a Étienne-Alexandre Beauregard. Fait que je pense qu'à Boulevard, on est capable de parler à toutes les strates de la population, puis moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir l'opinion de tout le monde. Je suis pas le genre de gars qui dit « Ah, oh, les vieux, je veux plus ils entendre, puis oh, les jeunes, ils savent pas c'est quoi. » Au contraire, je pense qu'il faut s'inspirer de tout le monde pour faire une société meilleure. On fait une courte pause à Boulevard 101. Par la suite, on va faire un tour de l'actualité. Puis on va parler également d'une nouvelle application mobile pour aider les agriculteurs en santé mentale. On le sait, avec les changements climatiques, c'est pas facile au niveau du domaine de l'agriculture.
Avec les coûts aussi, ah, les infrastructures, oui. C'est peu de relève.
Exactement.
Difficulté à rendre financièrement intéressant.
Pas une étude qui est sortie que 60% des fermes présentement cherchent justement leur relève agricole. Il y en a plusieurs qui le font parce que c'est cinquième génération. Ben, y a Hélène Bourgoin qui a mis sur place une application qui s'appelle Okirico, qui va être mise en place, qui va permettre aux agriculteurs de mesurer, je vais le dire comme ça, leur degré de santé mentale. Puis de faire, oups, là, tu sais, des fois, quand on tombe dans le brouillard, on tombe dans le noir, on s'en rend pas compte tout de suite, mais ben là, ça va les aider à dire, oh, attention, problématique, j'ai des problèmes de santé mentale et il faudrait bien que j'aille consulter ou que je prenne soin de ma santé mentale. Alors, on parle de ça après la pause. C'est un dossier qui est très intéressant.
Avec 25% de rabais,